à tous pour cette 26e émission de l'art qui parle de notre temps. Aujourd'hui, l'émission sera consacrée à une seule artiste, Marinette Cueco, qui présente une très belle exposition au musée de l'Hospice Saint-Roch à Issoudun jusqu'au 31 décembre de cette année. Je ne peux qu'une nouvelle fois vous inviter à vous y rendre. J'avais sollicité Marinette Cueco pour pouvoir m'entretenir avec elle de cette exposition et de son travail. Elle m'a reçu avec la plus grande des bienveillances, mais j'ai eu un ennui technique qui m'a empêché d'enregistrer ce long interview qui fut un moment si agréable et si riche. J'ai dû recomposer le texte à partir de mes notes et de mes souvenirs, qui est bien loin de ce que l'interview aurait pu vous apporter. Comme j'essaye de le montrer, ce travail est singulier, d'une grande simplicité, d'une grande humilité vis-à-vis de la nature et d'une grande beauté. Pour accompagner l'émission, j'ai préféré m'en remettre à la musique électronique. Nous commencerons donc par un set de Thylacine au château de Versailles à partir des Gnossiennes d'Eric Satie. Puis nous finirons avec le set FKJ au musée d'art moderne de la ville de Paris dans la salle La Fée de l'électricité de Raoul Dufy. Cette œuvre est l'une des plus grandes peintures au monde, d'une surface de 600 mètres carrés. Elle a été commandée pour l'exposition universelle de 1937 pour le pavillon de l'électricité.
Thank you.
un peu de rencontre. Ce mois-ci, j'avais envisagé de faire un long interview avec Marinette Cueco, qui présente une magnifique exposition au musée Saint-Roch d'Issoudun jusqu'au 30 décembre 2022. Je ne peux que vous inviter à vous y rendre. Elle a gentiment accepté et je me suis rendu chez elle à Paris pour la rencontrer. Nous avons échangé pendant 2 heures et ce fut un moment merveilleux qui ne restera que pour nous deux, car un bouton ne s'est pas enclenché. Le temps de l'enregistrement n'a jamais commencé. C'est nul, et oui, c'est nul, et mon dépit en fut si grand. Mais que faire, rien que subir la perte de ce qui n'existera pas pour vous. Le temps ne fonctionne pas en replay, impossible de reprendre sa parole qui ne sort pas de sa bouche sans la déformer. Me voici réduit à juste commenter un temps que je n'ai pas su vous communiquer. Il me faut assumer mon erreur et ne pas m'engager à courir après ce que je ne peux pas rattraper. Par conséquent, cette émission sera construite sur la trame que j'avais préparée pour cette rencontre et sera émaillée de mes souvenirs de ce moment et de tous les extraits de tests qui m'ont aidé à la construire. Si bien qu'elle ne pourra être qu'autour de Marinette Cueco et non pas avec elle. Je ne peux, comme je fis lors de notre rencontre, lui dire combien je la remercie de m'avoir accueilli avec tant de bienveillance. Lors de cette émission, vous aurez peut-être à démêler ce que je pose comme question, ce que je commente et ce que je dégage de mes souvenirs de notre échange avec Marinette Cueco. Chaque question posée sera introduite par « question », chaque réponse par « Marinette Cueco m'a répondu » et chaque commentaire par « Il me semble ». Question. Vous avez frôlé à la fois les mouvements comme support surface, l'arte povera et ce mouvement nommé de façon très imprécise et galvaudée de Land Art. Vous avez vécu le mouvement de la nouvelle figuration à laquelle votre mari a participé et vous avez traversé en précurseuse les grands mouvements de pensée de notre époque, le féminisme et l'écologie. Marinette Cueco m'a répondu combien la sobriété était la réalité de son enfance en Corrèze. Que l'on faisait attention à tout. 2 pulls tricotés permettaient d'en faire un. Quand la guerre sera finie, nous pourrons avoir une poupée, du chocolat, échangeait-elle avec ses amis. Garder tout fut le sort que sa sobriété lui jeta. Pas de réel changement tout au long de sa vie pour une artiste qui a toujours vécu dans la nature, qui s'émerveillait de la simplicité de sa beauté. Son humilité vis-à-vis d'elle n'est que le juste retour de cet émerveillement. Son souci de l'écologie est inscrit dans sa conception de la vie, un comportement qui va de soi, dont la force tient simplement à ce qu'il est. Le tissage était une activité partagée par beaucoup à la campagne. Il y avait encore un tisserand au bout du village avec un grand métier à tisser. C'est avec lui qu'elle s'est initiée à ces techniques, puis elle a rencontré une tisserande confirmée qui lui a permis d'approfondir ses connaissances. Après la guerre, dans les années 50, la tapisserie contemporaine va connaître un regain avec des personnalités comme Jean Lursa, dont l'incroyable tapisserie du Champ du Monde exposée au musée de la tapisserie contemporaine à Angers. Dans les années 60-70, après avoir poursuivi son travail de tissage, Marinette Cueco va participer au renouveau de l'art textile porté par des artistes comme Pierre Daquin, Jagoda Buig, Magdalena Abakanovic, Sheila X, Joseph Gros-Garriga, Olga de Amaral, qui vont expérimenter toutes sortes de matériaux pour réaliser leurs œuvres. Le musée d'art moderne de la ville de Paris, sous la direction de Jacques Lassagne, 1972-1979, puis celle de Bernadette Cottençou, 1981-1988, va porter une grande attention aux arts textiles. Le musée comprend plusieurs sections à cette époque-là, comme l'Arc, animation-recherche-confrontation, créée en 1961 et dirigée par Pierre Gaudibert, qui va, au cours des années 60, ouvrir le musée aux artistes de la jeune peinture, puis à ceux de la figuration narrative et à support surface, celle des services éducatifs dirigés par Catherine Hubert et celle de l'atelier de création textile 1981-1988 dirigée par Daniel Molinari. Marinette Cueco, mariée avec Henri Cueco, l'une des figures majeures de la jeune peinture, va participer à ce renouveau au sein de l'atelier de création textile. Mais la commande de Catherine Hubert de réaliser une très grande œuvre avec des végétaux pour les ateliers éducatifs du musée la conforte dans la capacité de son œuvre à s'affranchir des limites qu'invisiblement la dénomination textile renvoyait à un travail de femme et d'artisanat. François Mathé, alors directeur du Musée des Arts Décoratifs, avait réalisé une exposition artiste-artisan avec un point d'interrogation en 1977 qui favorisait la porosité des arts afin de questionner le statut des créateurs. Question. Cependant, vous revendiquez la singularité de votre position. Dans l'entretien avec Evelyne Artaud, dans la monographie qui vous a été consacrée, à sa question « À quelle grande famille d'artistes te sens-tu appartenir ?» vous répondez « J'ai souvent le sentiment de ne pas faire le même métier que mes amis peintres, comme si nous étions situés à deux pôles opposés, à deux extrémités. » Marinette Cueco m'a répondu que pourtant, bien qu'entourée au sein de la famille des peintres de la jeune peinture, nourrie de discussions passionnantes, elle se sentait un peu différente avec ses œuvres textiles qui ne sont pas de la peinture, comme en témoigne la réflexion de l'un d'entre eux qui lui demanda un jour « Mais quand feras-tu de la peinture ?» De plus, le féministe était le corollaire de sa pratique à cette époque. Très politisée, elle s'engage activement dans le combat féministe comme la défense de l'avortement. Discutant de cette sensation d'être aux antipodes avec ses amis peintres, Isaac Goldberg lui disait que les uns, c'était le concept et elle, la pratique. Question. Cette méfiance à se revendiquer comme artiste s'accompagne de cette résistance à ne pas trop affilier votre œuvre à l'art contemporain, à son histoire. Vous dites à Evelyne Artaud dans ce même entretien « Je me sens plus proche des arts dits primitifs ou premiers, dans leur relation aux éléments naturels, je me sens par contre éloigné de toute représentation. » Quand vous dites que vous êtes éloigné de la représentation, est-ce une volonté de rejeter l'image et sa consommation ? Marinette Cueco m'a répondu qu'elle ne représentait pas les choses, elle les donnait à voir. C'est très différent. Question. Je lui ai demandé si elle connaissait l'œuvre d'Herman de Vries. Marinette Cueco m'a répondu qu'elle ne connaissait pas personnellement, mais qu'elle appréciait son œuvre. Il me semble qu'il y a un voisinage entre son œuvre et celle d'Herman de Vries. Dans son texte « Les choses mêmes sur Herman de Vries » de Anne Moglin-Delcroix, elle écrit « Pourtant, il fallait mettre l'art à nu pour que le monde pût se manifester. » Il fallait détruire toute représentation pour que la présence pût se donner. Toute sagesse a pour condition une assaise. Le blanc en est l'aspect objectif qui purifie l'art de la représentation du monde pour laisser venir le monde lui-même. Mais il faut aussi envisager l'aspect subjectif et purifier l'art de la représentation à soi. Origine des représentations, tel est le sens principal des travaux d'Herman de Vries sur le hasard entre 1962-65. Le moi est illusoire et producteur d'illusions. C'est le point essentiel de la pensée orientale. C'est la méfiance envers la subjectivité qui explique le recours au bouddhisme, non l'inverse. Pour le dire d'un mot, cette méfiance, quand elle n'est pas provoquée par des raisons artistiques, rejet de l'expressionniste, est alors provoquée par les désastres nés du sujet qui s'est comporté et se comporte dans la science comme dans la technique, à l'égard des hommes comme à l'égard du monde, en maître et possesseur de la nature. On se tourne alors vers les pensées orientales en France. On en a un bon exemple avec Lévi-Strauss, dès 1955, de retour d'un long voyage chez les Indiens Bororos, où il a éprouvé les limites de la rationalité occidentale et ses capacités destructrices. Il dénonce dans le « moi » un mirage fondateur de la pensée occidentale. Le moi n'est pas seulement haïssable, il n'y a pas de place entre un nous et un rien. Anne Moglin-Delcroix dit en parlant de l'œuvre d'Herman de Vries, « Il fallait détruire toute représentation pour que la présence puisse se donner. » Principe dit avec radicalité, mais qui rejoint ce que nous dit Marinette Cueco, beaucoup plus doucement, « Je ne représente pas, je donne à voir les choses. » Puis Anne Moglin-Delcroix poursuit en disant, « Mais il faut aussi envisager l'aspect subjectif et purifier l'art de la relation à soi, origine des représentations, tel est le sens principal des travaux d'Herman de Vries sur le hasard entre 1962-65. Le moi est illusoire et producteur d'illusions. Le rejet donc de la représentation est donc lié à la critique du sujet. Cette dernière est particulièrement présente dans l'art du XXe siècle, elle remet en cause la vision autocentrée de l'homme dans le monde. Elle peut se traduire de plusieurs façons, par le rejet du statut d'artiste, par la revendication du collectif, par son effacement, son humilité, son ascèse, par l'immersion de son être dans le monde, ou par l'abandon de son action au profit de la contemplation. Il me semble qu'il n'y a jamais eu de face-à-face entre l'œuvre de Marinette Cueco et la nature, mais une douce complicité, un grand respect, d'où l'humilité de ses gestes, l'intimité qu'elle a avec elle, comme si elle considérait qu'il faut se mettre en retrait de sa personne pour être à l'écoute de la nature, de ses rythmes et de ses différents états en perpétuelle transformation. Ce retrait de la subjectivité de l'artiste se manifeste chez Herman de Vries, notamment dans les œuvres qu'il réalisait en posant un papier au sol sous un arbre, ses feuilles en se détachant venaient s'y poser, et l'artiste ne faisait que les y fixer. Cependant, il y a d'illustres prédécesseurs, Jean Harpe avec ses œuvres, Construction élémentaire avec les lois du hasard, 1916, qui consiste à déchirer un papier et d'en laisser tomber les morceaux sur un autre et de les y coller. Ou, comme Elsford Kelly, dans l'œuvre Lacombe 2 de 1950-51, quand il reprend le tracé de l'ombre d'un escalier métallique pour réaliser un tableau abstrait dont la composition n'est que le résultat de ce moment unique et extérieur à lui. Question. Avez-vous par exemple employé l'aléatoire pour construire votre travail? Marinette Cueco m'a répondu qu'elle y avait recours en m'expliquant que l'aléatoire se recharge à chaque geste. Il me semble que cet aléatoire chez Marinette Cueco s'inscrit dans le fil du temps qui passe et quelque part se distingue de la radicalité de l'instant, comme dans les œuvres de Jean Harpe ou Elsford Kelly. Ces derniers obtiennent une œuvre qu'ils n'ont pas composée, puisqu'elle est le fruit que d'un hasard mis en place par eux. Leur œuvre est sans composition, acompositionnelle pourrait-on dire, car ils n'interviennent pas dans sa réalisation. Leur action se résume à mettre en place la méthode pour les obtenir. À l'inverse, Marinette Cueco parle de recharger l'aléatoire, ce qui suppose deux composantes très différentes, de ne jamais prévoir l'origine de ce qu'elle va faire et de laisser faire les choses en fonction de la réaction du matériau travaillé. Marinette Cueco m'a répondu que jamais elle ne faisait de croquis préparatoires, de maquettes ou même de penser à ce qu'elle allait faire. Pour l'une des expositions Grandeur Nature présentées en 1988 par le Centre culturel de Lyon, à laquelle elle a participé, les organisateurs lui avaient demandé de faire une maquette. Mais elle s'en sentait incapable, car il lui fallait surtout pouvoir voir les lieux, examiner les végétaux de leur territoire. Aucune préconception, juste un regard, une intuition, un désir. Il me semble que pour poursuivre notre réflexion, que cet aléatoire dont nous parle Marinette Cueco ne résulte pas d'un geste radical, mais d'une succession de gestes relatifs car contextuel des qualités des matériaux utilisés, c'est-à-dire aussi bien de leur surface, leur dimension, leur résistance ou leur fragilité, leur humidité ou leur sécheresse, en somme, tout un nombre de caractères complexes qui supposent de bien connaître le végétal que l'on emploie. Cette recharge de l'aléatoire indique que l'aléatoire se redéfinit après chaque nœud, après chaque nouvel ajout de brin végétal. Nous pourrions penser que cela équivaudrait à une modalité de construction pas à pas du travail de tout artiste. Or, il n'en est rien, car ce travail répétitif, laborieux, demande une grande attention qui conduit à être absorbé par ce travail qui occupe l'esprit au point de le couper de l'extérieur et qui ne sait pas où il se finit. J'ai rapproché ce travail de nœud de l'œuvre de Simon Antaille qui noue sa toile blanche avec un geste répété, mais à chaque fois nouveau. Il fait des nœuds comme on égrène un chapelet, prière après prière, boule après boule, nœud après nœud. Les gestes répétitifs de Marinette Cueco, comme ceux de Simon Antaille, sont comme un temps suspendu consacré qu'au faire, une sorte d'effacement de sa personne, d'absorption dans son travail. Le travail en aveugle d'Antaille va ouvrir sur un émerveillement de la couleur, celui de Marinette Cueco est une ode au végétal. Marinette Cueco m'a répondu qu'elle connaissait les œuvres d'Antaille et qu'elle les appréciait, qu'il y avait quelque chose en effet de commun dans cette patience du faire. Question. Quand l'œuvre est-elle finie? Elle cita alors son mari, Henri Cueco, qui disait qu'il y avait autant de fins possibles dans un tableau, jusqu'à ce que l'on décide que c'est fini, parce qu'on l'abandonne, quelles qu'en soient les raisons. Il me semble que Marinette Cueco n'a aucune vision prédéfinie, préconçue, prévue de la fin de l'œuvre qu'elle a laissée pousser au gré de son avancement. Elle la confie à la relativité des contextes de sa réalisation. Cet effacement de sa personne, guidé par le végétal du début à la fin, ne dit-il pas que son art est celui de la nature qu'elle révèle plus que le sien? Nous trouvons exprimé par Anne Mogladelcroix un début de réponse en parlant de l'œuvre d'Herman de Vries lorsqu'elle écrit « Ces pages du livre blanc d'Herman de Vries, donc c'est un livre comprenant que des pages blanches, donc ces pages indiquent aussi que, plus que le langage, l'art ne peut prétendre représenter ce qui se montre, ce qui se manifeste, ce qui se révèle, autrement dit la réalité. Il doit s'effacer devant la puissance créatrice infinie de celle-ci, qu'on appelle la nature, c'est-à-dire au sens propre, ce qui naît et ne cesse de naître. Sinon la nature est art, l'art humain ne pourrait être que contemplatif. » Qu'est-ce que contempler? C'est regarder en s'absorbant dans la vue de l'objet. C'est voir et savoir en même temps, de cette vision et de ce savoir qui sont sans extériorité, sans distance, et qui, par conséquent, s'éclairent de ce qui les illumine. Quelque chose comme l'émerveillement de l'amour. Herman de Vries emploie le mot « conscience ». En français, le mot « conscience » ne signifie pas, comme une tradition cartésienne nous y a habitués, le regard de l'esprit tourné vers lui-même, mais l'inverse, plus conforme à l'étymologie. Une connaissance intime des choses, un savoir commun, de connaissance, de sympathie, qui fait que l'homme et les choses s'appartiennent mutuellement, s'assimilent réciproquement, se révèlent de la même étoffe qu'on appelle nature. Question. Est-ce que l'immersion, l'absorption dans son travail, conduit à une forme de contemplation? Marinette Cueco m'a répondu qu'il y avait peut-être quelque chose de cette nature quand un geste se répète à l'infini. Elle évoqua le souvenir de sa grand-mère qui allait filer au dehors. Elle s'asseyait sur un rocher, bien droite, levait haut son bras pour tirer le fil de son écheveau et semblait se perdre dans ses pensées, ou ne penser à rien comme coupée du monde dans une sorte d'immersion totale dans son travail. Il me semble en effet que si regarder en s'absorbant dans la vue de l'objet, c'est voir et savoir en même temps, de cette vision et de ce savoir qui sont sans extériorité, sans distance, et qui par conséquent s'éclairent de ce qui les illumine quelque chose comme l'émerveillement de l'amour, ce n'est pas si facile, car il faut à la fois s'effacer, se mettre en retrait et accueillir, afin que la nature se révèle à nous. Marinette Cueco y parvient en faisant ou en se laissant guider par la nature en ce qu'elle est. Ainsi l'œuvre est bien le résultat de ses actions qui s'enchaînent dans la suite des nœuds produits, certains plus larges, d'autres plus serrés, plus petits, plus gros, plus fins, etc. Tout en défendant la singularité de l'œuvre de Marinette Cueco, je ne peux que noter un voisinage avec celle de Claude Viala, dont elle m'a dit qu'elle avait vu très tôt son œuvre à l'Arc, au Musée d'art moderne de la ville de Paris, dans les années 80. J'ai trouvé dans le manifeste qu'écrit Claude Viala à la suite de la scission du groupe publié dans le Quotidien de Paris en mai 1975 que certaines des intentions initiales du mouvement dont il critique le dévoiement par certains illustrent assez bien une pensée infuse dans l'œuvre de Marinette Cueco. Je le cite. Considérer l'espace réel, s'attaquer à la vision monocentrée de l'espace renaissant, envisager la peinture comme une topologie. Ne pas privilégier l'image, mais la considérer comme l'obligatoire produit d'un travail, le travail du peintre, devenant, par l'abandon du logocentrisme, objet de connaissance. Ne pas privilégier de matériaux précis, mais assujettir l'image au travail sur le matériau, et, par une analyse du matériau employé et du travail sur le matériau, ouvrir le résultat au sens. Ne pas privilégier l'auteur en tant qu'artiste, mystifiant, mythifiant, n'impliquant pas un savoir privilégié, abandon de la signature. Travailler le marché de l'art en ne privilégiant pas les tableaux marchandises, sujets à tous les aléas de la fragilité des matériaux. Nous y retrouvons la critique du sujet, l'œuvre qui résulte du produit d'un travail, le recours privilégié aux matériaux par son étude pour en révéler l'essence. Mais la différence entre Claude Viala et Marinette Cueco tient peut-être à ce que dit Isaac Goldberg. Comme eux, en parlant de support surface, Marinette Cueco cherche à remettre en question les composants traditionnels de l'œuvre, à défaire l'écran opaque de la toile. Dans cette filiation, elle a la particularité de se situer d'emblée dans un terrain qui n'appartient pas de plein droit à l'univers culturel, d'afficher une indifférence relative à un héritage esthétique pesant. Malgré cette distinction, on peut constater des affinités entre sa pratique et celle des participants de Support Surface, plus particulièrement de Claude Viala. Marinette Cueco, comme lui, privilégie des actions simples qu'elle répète à l'infini et définit sa production comme des jeux d'enfants ou des travaux saisonniers. Comme lui encore, elle utilise des formes inhabituelles, travaillées par le temps, galets, bois. De plus, elle partage sa fascination de la vieille science du nœud, ses gestes de la vie quotidienne, formes utilisées par des ouvriers et des artisans, activités rituelles et magiques, jeux d'enfants et d'adultes. Cette différence dénote de sa singularité, qui tient autant à sa position en marche, comme elle l'a dit, du fait qu'elle soit une femme, qu'elle ne pratique pas la peinture, mais un art hybride textile fait avec du végétal, qu'à son approche relativisme de l'art qu'elle déploie. Et c'est sur ce point qu'elle est plus novatrice, car elle accueille la complexité et la diversité de la matérialité du végétal, sans jamais la contraindre, en étant la moindre intrusive possible, simplement dans l'espoir de la révéler, de nous y faire accéder. Isaac Goldberg écrit. Mais Marinette n'est pas dupe, malgré les précautions qu'elle prend afin de préserver la spécificité de différents éléments de la nature qu'elle exploite, il s'agit toujours d'une activité dénaturante, de fabrication d'un artefact, d'une certaine violence face au monde organique en croissance. Bien sûr qu'elle agit en artiste en nous donnant à voir un artefact qui suppose une opération de déconstruction et de reconstitution, la mise en œuvre d'un nouvel état du végétal, qui n'est pas une image mais un vecteur à la fois de connaissance et de monstration. Les planches des herbiers en sont un parfait témoin. Ils ne sont pas que des planches descriptives d'herbiers de botanistes, même s'ils en sont proches, mais ces manières de voir ces végétaux. Isaac Goldberg cite Marinette Cueco lors d'un entretien entre elle, Denise Le Dantec et Pierrette Bloch pour la revue L'Âne, le magazine freudien, en 1995. Cette ligne fine, tenue, souple et maniable. Je la trouve avec l'herbe, infinie, tige après tige, infinie comme le trait d'un crayon, si on la renouvelle sans cesse avec des interstices et des nœuds, à la fois souple et raide, gardant la forme qu'on lui imprime. Graphique, dans la trace, n'est ni écrite ni dessinée, mais simplement posée là, comme le résidu d'une opération. Cette dernière partie de la phrase montre combien l'action de déconstruction qu'elle opère par l'opération plastique qu'elle met en œuvre existe, mais jamais directement ni totalement. Elle se fait par une sorte de décantation d'une forme en une autre forme. Marinette Cueco m'a répondu, quand j'ai utilisé le terme de dénaturation pour déconstruction, combien elle était clairement en désaccord avec moi, en affirmant que pour elle, c'est une révélation, un nouvel état, mais pas une dénaturation, car la nature existe toujours. De plus, elle a parlé de la ligne en disant qu'elle avait beaucoup appris auprès d'Henri Cueco, qui était un immense dessinateur. La limite du dessin ne dépend pas de la réalité de la main, mais de son environnement, de la lumière. Le dessin fixe une limite parmi tant d'autres possibilités. Malgré les invitations d'Henri Cueco à vouloir lui apprendre à dessiner, elle n'a jamais voulu le suivre dans le dessin parce qu'elle ne voulait pas décider. Elle disait qu'il répétait tous les jours, dès le réveil, qu'il fallait décider, qu'elle devait décider. Il me semble qu'elle marque là une position singulière des plus intéressantes, car elle a toujours une retenue. Elle ne pense jamais pouvoir modifier, l'emporter sur la nature, trop consciente que le végétal ne fait que changer d'état et qu'il n'existe que dans la diversité de ses états. Il n'y a donc pas d'intervention possible chez elle, juste un regard, une attention, un soin porté aux végétaux dont elle souhaite être le plus proche possible. Elle rompt ainsi plus radicalement que d'autres avec notre monde auto-centré, en refusant profondément ce qui serait de l'ordre du face-à-face avec la nature. Alors que ces derniers inventent des formes miroirs de la nature, perdues dans la transparence de leur image. Cependant, si ce tressage de nœuds est guidé par les caractéristiques des matériaux et de leur utilisation, il n'en reste pas moins que Marinette Cueco choisit un format pour ses œuvres. Question. Qu'est-ce qui procède au choix du format? Par exemple, une forme triangulaire pour l'œuvre Entrelacs 3, Triangle 1991, un format ovoïde pour Arachné 1 Tondon 2019. Marinette Cueco m'a répondu que le triangle équilatéral lui est venu de l'emploi fréquent de ce format par Henri Cueco. C'est un format parfait, car en tournant autour, il est aisé de travailler, car chaque point est équidistant. Le format rond est trop facile et le format rectangulaire, standard. Question. Le jeu de contraction-relâchement, concentration-dispersion, extension-repli qui agite l'œuvre lui accorde une perception organique. Ce jeu ne semble-t-il pas attribuer au format un rôle de limite poreuse et protectrice entre la partie du monde présentée et son environnement, comme une peau qui sépare nettement l'intérieur du corps de son environnement. Marinette Cueco m'a répondu que c'était troublant ce que vous me dites, car cela me rappelle la remarque d'un ami scientifique qui avait acquis un tableau, entrelacs, réalisé à partir de joncs entrelacés. Il me disait que le tableau reprenait la même structure que celle qu'il avait pu observer au microscope pour le jonc. Magnifique coïncidence. Il me semble que la métaphore cellulaire, bien que n'étant qu'une facilité de commentaire, permet de comprendre combien la structuration des œuvres est une suite d'éléments qui se définissent les uns par rapport aux autres, les uns à la suite des autres, et forment une sorte de tissu réticulé. Le contour des œuvres cerne l'œuvre et viennent fermer les derniers espaces définis par les nœuds. Point d'espace ouvert sur l'extérieur, point de frange qui viendrait le dépasser, de telle façon qu'il définit un champ d'observation comme l'on dirait d'un champ opératoire. C'est le lieu où l'on opère, ici, c'est le lieu de ce que l'on pratique, le nouage. Isaac Goldberg semble me rejoindre comme dans son texte « Paroles de plantes », il dit. Chez elle, pas de paysage ou de vision panoramique. Les éléments végétaux, souvent minuscules, ramassés ou cueillis, tressés, tricotés ou noués, deviennent la matière constituante de sa production. Évitant tout discours héroïque, toute mise en scène grandiose, elle traite ces fragments de la nature à l'échelle humaine. Il me semble en effet qu'il n'y a pas de paysage dans ses œuvres, même dans les plus grandes, comme Les Herbiers de 2000-2022 ou Les Herberies de 1994 ou Ardoise de 2021, car les matériaux prédominent et jamais ne nous permettent de nous en échapper. Ils sont fragments formant un plus grand fragment et ainsi de suite, mais sans jamais échapper à la logique de la méthode qui les a amenés là. La cueillette puis la peau circonscrit l'œuvre dans sa matérialité. Les Herberies, par exemple, qui pourraient paraître au premier coup d'œil représenter un paysage, ne le seront jamais, car ils ne sont pas de l'ordre de la représentation. Le matériau est si prégnant et enveloppant tout, le sol, les pierres, qu'il détermine cette clôture de l'espace, qui n'apparaît que comme un espace propre, incapable de quitter ses limites. L'œuvre pourrait être x fois plus grande, cela ne changerait rien. Il me semble que l'œuvre de Sandy Slogan, qui est très éloignée de celle de Marinette Cueco, explicite cette clôture de l'espace par son homogénéité, non pas de matériaux, comme chez cette dernière, mais de motifs, puisqu'il s'agit chez elle d'un espace monochrome où se déplacent le plus souvent des chiens, eux aussi monochromes. Inversement, les séries de Sol Lewitt sont toujours en expansion, alors que les Herberies, formes mais de carrés de matériaux, peuvent augmenter en nombre, mais ils ne sont jamais en expansion, car définis par le matériel qu'ils contiennent. De même, les peintures de Jackson Pollock débordent de leurs limites. Chez Marinette Cueco, jamais les matériaux le font. Comprise comme fragment de fragment possible, non seulement la métaphore cellulaire semble juste, mais la notion de fractale pourrait peut-être être invoquée pour certaines œuvres de Marinette Cueco. Une fractale est une structure mathématique répétitive, dont la forme reste la même, quelle que soit l'échelle à laquelle on l'observe. Le chou romanesco en est un bon exemple, puisque sa forme en cône se retrouve dans l'ensemble des plus petits cônes qui le composent. Nous pourrions aussi penser que les interventions in situ que Marinette Cueco a réalisées très tôt forment paysage. L'exposition « Nœuds et ligatures » de 1983 à la Fondation nationale des arts plastiques, rue Berryer, présente des herbes tressées comme une chevelure d'herbe, comme celle des femmes africaines qui se coiffent entre elles avec de longues tresses. Même s'il n'existe pas de photographie de l'œuvre complètement réalisée, puisque nous n'avons que celle prise au début de sa réalisation, elles suffisent pour nous montrer combien ces tresses transforment le sol en laissant apparaître la terre comme un cuir chevelu et définit l'espace de l'action. Mais le plus surprenant pour moi résulte de cette attention, ce soin apporté à la nature, qui à la fois inscrit la notion de précarité d'un moment, celui de la coiffure, qu'il faut éternellement recommencer, et à la fois le lien intime entre celui qui coiffe et celui qui l'est. Éphémère, cette action sera progressivement détruite par la repousse de l'herbe. Cette attention, ce soin, ce care, dirions-nous aujourd'hui, est une constante dans l'œuvre de Marinette Cueco, qui suit le rythme des saisons, les hivernages, puis le temps de la cueillette, et qui tient compte des différents lieux et périodes de pousse pour chaque végétal. Le rapport d'intimité avec la nature qu'elle suit, qu'elle protège, les filets végétaux sur les pierres, et naturellement ce tressage d'herbes pour révéler la beauté des herbes, montre qu'elle veille sur ce qui est nous. Marinette Cueco ne nous parle pas tant d'écologie, elle vit ainsi. Portons-nous maintenant sur les œuvres dénommées entrelacs qui apparaissent autour des années 80. Elles annoncent le passage du fil à la tige végétale. Cette évolution se fait naturellement, car elle est la suite logique du renouveau du travail textile que nous avons évoqué, qui avait pour enjeu de repenser la tapisserie par une suite d'expérimentations avec différents matériaux et différentes techniques. Pierre Daquin, par exemple, va introduire des matériaux industriels comme le carton d'emballage, le caoutchouc, le linéum, le vinyle. Chez Laïc va multiplier les méthodes de réalisation en nouant, tordant, pliant, en enveloppant les éléments qui composent ses œuvres. Marinette Cueco participait et connaissait bien toutes ces avancées que l'atelier de création textile du musée d'art moderne de la ville de Paris promouvait. Question : ce passage du fil au matériau végétal a-t-il été progressif ? Marinette m'a répondu : comme je travaillais avec toutes sortes de végétaux dans mes tapisseries, avec du papier, je me suis dit, pourquoi pas avec des végétaux ? Il fallait avant tout les nommer et le faire d'abord avec le nom latin. J'avais l'habitude de les utiliser car mon père, qui était forestier, les connaissait bien, et nous aussi. Puis il y a les noms vernaculaires, ceux du langage populaire, souvent différents selon les régions, ceux liés aux usages médicaux, ceux des végétaux toxiques qui sont souvent nombreux pour désigner une même plante. Puis il a fallu que j'apprivoise les végétaux qui réagissent tous différemment en raison de leur structure, mais aussi des conditions de leur environnement. La difficulté à travailler ce matériau est grande, demande une intimité avec la matière et une grande délicatesse. Portons-nous sur l'ensemble d'œuvres que Marinette Cueco a réalisées avec des ardoises récupérées, qu'elle a percées pour y introduire des tresses de graminées. Certaines tresses les entourent dans les œuvres intitulées « Enroulement », certaines les assemblent dans les œuvres intitulées « Ardoises ligaturées » et certaines passent de trou en trou et dessinent des traits verticaux, horizontaux, en croix, qui ne sont pas sans évoquer les points de couture, dénommés « écriture ». L'opposition de matière ne semble pas tant les mettre en équilibre que de les traverser d'un flux organique, la solide ardoise et la fragile tresse végétale, l'une est traversée, l'autre traversante. De plus, même si le titre « écriture » pourrait évoquer une écriture inconnue, indéchiffrable, ne sont-elles pas finalement muettes, murées dans leur matérialité ? Portons-nous sur l'ensemble d'œuvres intitulées « Les pierres captives » de 1985, constituées de pierres entourées d'un filet de tresses végétales. Il est clair que la dureté de la pierre s'oppose à la fragilité du végétal et que l'enveloppement de la pierre est aussi une forme de protection. J'ai pensé aux quatre pierres de Tony Grant qu'il a recouvertes d'une résine de polyester dans l'œuvre « Quatre pierres et stratifiées » de 1984. Yves Michaud écrit dans le catalogue de son exposition au Centre Georges Pompidou en 1986 « Le sculpteur se comportait avec lui, en parlant de l'acier, comme avec les autres matériaux. Non en lui imposant un projet ou une idée, le combat avait pourtant été sévère, mais en partant de ses propositions. » Malgré la diversité des objets, le principe du travail demeure le même. Une esquisse de proposition est fournie par le matériau ou la chose de départ. Elle suggère forme, taille, contour, grain, règles de développement, de progression et limite. Cette proposition est ensuite reprise, développée et camouflée par l'emploi de la résine qui redouble et dissimule la suggestion initiale. Quatre pierres lentes à fournir une idée seront ainsi assemblées et prises dans une gangue de résine, ordonnée et figée en elle jusqu'à former un corps lourd et transparent, sans couleur propre ou plutôt perdu dans la couleur bleuâtre, verdâtre ou ambrée de la résine, avec la forme initiale et sans elle. Comme pour Marinette Cueco, mais de manière différente, nous retrouvons le rôle du matériau qui guide l'artiste pour réaliser l'œuvre, l'effacement de l'artiste qui évite avec difficulté d'avoir une idée et qui choisit un matériau brut le plus neutre possible, puis qu'il le transforme en un objet sans l'avoir détruit. Dans les pierres captives, Marinette Cueco garde la pierre qu'elle enveloppe d'un treillis végétal qui en transforme la perception, à la fois pour la rendre plus douce, moins minérale. Nous finirons ce propos par ce qui m'a le plus touché, les herbiers de 2000. À y regarder de près, ces planches font évidemment penser à des planches d'herbier conservées au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, bien qu'elles en soient très différentes. Cependant, cette similitude formelle a questionné Marinette Cueco, qui me disait qu'elle ne savait pas comment procéder pour les présenter. Ce qui va enclencher leur présentation, c'est une histoire entre elle et le Québec. Invitée chez des amis, elle avait été fascinée par des algues trouvées sur le bord du Saint-Laurent, qui apparurent ensuite sur les planches de son herbier. Au fil des rencontres, elle s'intéressa à l'histoire des premiers arrivants sur cette nouvelle terre. Thomas Aubert, voyage en 1508, Jacques Cartier, 1534-1542, Samuel Champlain, 1604-1616, et apprit que le seigneur du château de la ville Montmagny, où elle vivait, Charles Huot, reçoit, en 1646, la seigneurie de la rivière du Sud au Québec, tout un ensemble de correspondantes qui rendait possible l'exposition de l'herbier. Le plus extraordinaire dans ces herbiers, c'est l'adaptation de la composition au végétal. Le végétal guide la composition en quelque sorte. Au bas de chaque planche des herbiers, il y a le nom latin, puis le nom vernaculaire et le lieu de la cueillette. Je prendrai trois exemples, mais toutes ces planches sont magnifiques. Fucus vesicolosus, algue brune, fucacacée, fucus vesiculeuse, goémon, varech à clochette, recueilli à la Cotinière, Oléron, sur la plage de sable, le 19 novembre 2004. La composition des éléments les lie ensemble, car ils se touchent, tout en étant pleinement déployés, comme des baigneurs qui feraient la planche et se toucheraient par le bout des doigts. Une impression de flottement des algues sur la planche, comme si le végétal nous rappelait sa nature de plante aquatique. Pinus sembra, Pinus arolé, Pinus combro, Sylvetris pillon, sylvestre, pin rouge du nord, famille des pinacées. Jardin la joie, par les livres Clamart et le lac de Pontcharal, été 2003. La composition aligne les épines de pin comme des allumettes en deux blocs, l'un en haut à droite, l'autre en bas à gauche. Les épines sont de tailles différentes et légèrement courbées. Rien de tel quand elles sont au sol dispersées partout en s'enchevêtrant. Elles prennent le rang comme des élèves qui rentrent pour les uns dans une classe, pour les autres dans une autre, afin que l'on puisse les identifier, les singulariser. Peut-être la meilleure façon de les observer est de les différencier. Phoeniculum vulgare ou Capacillaceum, du latin fenus foin, fenouil, famille des ombellifères, aromatiques, médicinales, alimentaires, cultivée marché de Montmagny. Dispersés, les petits brins ébouriffés, sans jamais se toucher, s'ébattent joyeusement sur la planche, dans tous les sens, comme l'efflorescence de leur ombrelle, dont le parfum s'en échappe vers le haut de la feuille. Aucune de ces compositions n'est structurée selon un schéma identique ou préconçu. Si ce n'est bien entendu l'organisation de la dénomination de la plante, le nom latin, le nom vernaculaire, la famille et le lieu de la cueillette. Chacune répond à ce qu'est la plante, du moins à l'un de ses éléments structurants. Cette attention à nous délivrer la plante comme une offrande nous la rend si belle. La simplicité de ses œuvres, remplies d'une grande attention à leur objet, sont le lieu d'une rencontre intense et banale avec la nature, peut-être une voie pour retrouver un équilibre avec elle.
Thank you. Thank you.